Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
À quelques semaines de l'élection présidentielle, l'abstention pourrait en France atteindre des niveaux inégalés, 32% selon une récente étude du Cevipof publiée par le journal Le Monde, soit 13 points de plus qu'en 2012. Face à la multiplication des affaires, les Français semblent découragés, démobilisés, gravement inquiets même. Alors, pour faire notre part à l'occasion de ces élections, Radio Présence a choisi de donner la parole aux acteurs de terrain en leur demandant ce qu'ils pensent des programmes des candidats à l'élection présidentielle. Première thématique de cette série d'émissions qui nous conduira jusqu'à la veille du premier tour, écologie et agriculture vers un nouveau monde. Voilà pour cette émission donc Vivante Église spéciale donc de cette série présidentielle donc sur écologie et agriculture vers un nouveau monde, point d'interrogation évidemment. Je reçois donc un certain nombre d'invités. François de... Alors je commence autour du plateau. Alors dans l'ordre, Maurice Villa, vous êtes arboriculteur de Verger de Noyers dans l'Aude, bonjour.
Bonjour.
Avancez-vous bien près du micro. François de Kerimel, vous êtes exploitant bovin, viande, enfin à la retraite en Ariège, bonjour.
Oui, bonjour.
Axel Tranvan, vous êtes représentant de la FNSEA 31, c'est-à-dire c'est la section locale de la FNSEA, voilà, et vous êtes exploitant céréalier, bonjour.
Bonjour.
Autour du plateau, je continue, Dominique Gilbon, vous êtes président des Amis de la Terre, donc ONG, on va dire, écologique, bonjour.
Je fais partie des du collège des présidents,
voilà, du collège des présidents.
Un des trois présidents des Amis de la Terre, Midi-Pyrénées, maintenant de la grande région.
Voilà, et est avec nous donc en duplex depuis Cahors, Serge Bladinière. Vous êtes président de la communauté de communes rurales dans le Lot et ancien vigneron, c'est bien cela? Bonjour.
Tout à fait, bonjour.
Voilà, et puis autour du plateau, pour finir, François de Monès, donc, qui est étudiant à l'EJT, l'école de journalisme de Toulouse, puisque cette école est partenaire de cette série d'émissions. Bonjour François.
Bonjour.
Alors, je proposais en fait de commencer cette émission tout simplement en faisant un constat de crise. Alors on fait souvent des émissions donc, sur la crise agricole. Il ne s'agit pas de refaire tout le film, mais je voulais quand même citer quelques chiffres qui disent la gravité du propos. Et d'une certaine manière, moi, je suis bien content qu'on commence par cette thématique. En 2016, plus de la moitié des agriculteurs ont eu un revenu annuel imposable inférieur à 4248 euros, subventions européennes comprises, ce qui fait 354 euros par mois, voilà, source du Figaro. Et puis, on pourrait en citer d'autres, évidemment. Les autres, tout simplement, en 1950, il y avait 5 millions de paysans en France. Aujourd'hui, il y a 500 000 exploitants agricoles. Et encore, je ne parle pas des suicides dont on ne cesse de parler. Alors, peut-être qu'on va commencer avec vous, Axel Tranvan. Vous qui avez, compte tenu de vos responsabilités, peut-être plus une vision d'ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette crise agricole? Ce sont des chiffres qui font mal, qui font peur, en tout cas.
Oui, c'est des chiffres qui sont très, très durs à entendre. Bon, il faut savoir aussi que, comme vous l'avez dit, les chiffres que vous avez, c'est des chiffres de 2016, mais bon, il y a déjà un bon nombre d'exploitations qui a aussi déclaré des revenus négatifs en 2015. Donc c'est vrai qu'il y a une crise qui s'est installée dans le secteur agricole, toute production confondue, hein, je pense que c'est la majorité des productions agricoles qui sont touchées par cette crise, on pourrait appeler sans précédent.
Alors là, oui, comment dire, c'est une crise circonstancielle, on va peut-être pas détailler, mais un certain nombre de choses qui font que c'est difficile en 2016, mais c'est une crise en fait, enfin on sait que le monde agricole est en crise, mais là on a les Français ont l'impression de découvrir de plus en plus que c'est plus qu'une crise, enfin c'est effroyable si vous n'arrivez plus à vivre et si les gens se suicident. Je lisais aussi qu'il y a une ligne qui a été mise en place donc pour les... une plateforme anti-suicide et les appels auraient été multipliés par deux en 2016.
Oui, c'est vrai. Bon, mais disons que cette situation, c'est une situation qui vient d'un effet plus ou moins mécanique. Parce que bon, ce qui se passe, c'est qu'on a des prix payés aux producteurs qui sont, dans la plupart du temps, en baisse par rapport aux années précédentes. De plus, au niveau des charges, quoi, toutes les charges... telles qu'elles soient, ont augmenté pour la totalité. Donc, je pense que c'est une équation qui est très facile à comprendre. Hein. Je veux dire, il arrive un moment où on n'arrive plus à dégager de revenus sur les exploitations afin de pouvoir vivre la famille. Bon, alors c'est vrai que c'est les agriculteurs, bien souvent, comme vous le dites, on le découvre en lisant ces chiffres. C'est vrai que les agriculteurs, c'est des personnes qui n'ont pas tendance à, comment dire, à tendre la main. Quoi. C'est des personnes qui travaillent dur, quoi. C'est des personnes qui ont l'habitude de gérer leurs problèmes et de souffrir en silence. Hein. Donc c'est pour ça peut-être que pour certaines personnes, lorsqu'on lit la presse, on découvre ces situations, hein, parce qu'on peut avoir un voisin qui est agriculteur qui souffre en silence, quoi, et sans forcément qui garde sa fierté quand même sur son exploitation. Donc c'est vrai que bon, c'est vrai, il faut le dire, quoi, il faut parler aux gens, quoi. Hein. Et moi, ce qui me gêne, c'est que c'est des personnes qui travaillent, qui ont quand même un goût de leur métier, quoi, qui travaillent fort, quoi. Et qui n'arrivent pas à tirer un revenu pour faire vivre les familles, quoi. Je pense que c'est des situations qui sont très dures aussi mentalement pour ces personnes-là, quoi.
Voilà, alors est-ce que les uns et les autres ont une ou deux réactions? Je ne sais pas, Maurice Villas, qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction?
Oui, vous nous avez donné quelques chiffres qui sont connus dans la profession et qui sont effectivement attristants. Il en manque juste un, c'est que l'agriculteur, et ce sont des chiffres qui sont sortis récemment, travaille plus de 60 heures par semaine. Alors en ce moment, on entend parler de 32 heures, 35 heures, 38 heures. Et on entend même parler de revenus sans travailler. Alors moi, en tant qu'agriculteur, quand sont arrivées les 35 heures, je disais autour de moi, ben, je suis tellement content que je l'ai fait deux fois par semaine.
Voilà, donc en tout cas c'est ce qui ressort, c'est vrai que c'est pas le propos de refaire un peu l'état de crise, mais ce qui est ressorti de toutes les émissions qu'on a fait, c'est que je me souviens la dernière fois qu'on a fait un plateau ici, tous travaillaient entre 60 et 80 heures, et presque aucun autour du plateau ne se payait, voilà, tout simplement. Je le dis d'autant plus, et pour finir cette courte introduction, que tout au long de cette série d'émissions, évidemment à Radio Présence, pour nous la préoccupation première c'est de savoir quel est le souci que les différents candidats ont des hommes, en l'occurrence des agriculteurs, et que peut-être cette difficulté du monde agricole montre une certaine distance avec la réalité. Alors, je propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer par se poser la question ensemble donc, pour le monde agricole du protectionnisme. Il y a une candidate qui a des solutions assez coup de poing en matière de crise agricole, c'est Marine Le Pen, donc candidate du Front National. Alors je vais commencer par cette première mesure qu'elle propose. Elle propose d'appliquer le patriotisme économique aux produits agricoles français. Voilà, François Asselineau, lui, de l'Union Populaire Républicaine, parle à ce sujet de campagne de sensibilisation à l'égard des Français, mais aussi à l'égard, pour que les Français s'habituent à ne pas avoir des produits extrêmement calibrés. C'est un peu deux choses différentes, mais complémentaires. En tout cas, ce qui ressort souvent de cette crise du monde agricole, c'est qu'on vous entend dire dans les différentes émissions que vous êtes soumis à une concurrence d'une certaine manière déloyale, parce que il suffit d'aller ailleurs en Europe et la main-d'œuvre est moins chère, et il suffit d'aller au-delà de l'Atlantique ou même parfois plus près, et vous n'êtes pas soumis aux mêmes contraintes phytosanitaires. Donc qu'est-ce que vous diriez de cette première mesure, appliquer le patriotisme économique aux produits agricoles français? Est-ce que c'est une mauvaise idée ou pas? François de Kerimel.
Ben moi, je fais référence à un président des États-Unis qui a dit qu'un pays fort était un pays qui maîtrisait son alimentation. Et donc je trouve que c'est bien de faire appel au patriotisme, c'est clair. Mais je pense que c'est plutôt une vision globale de l'homme dans la société, de la place de l'agriculture dans la société. En fait, aucun des candidats ne présente une vision globale. On parle justement, c'est plus une vision de la société, mais on ne situe pas l'agriculture et l'agriculteur dans un contexte général. Or, l'agriculteur est celui qui fournit quand même la nourriture. Alors je vois que même un des candidats propose qu'il y ait moins de 15% du budget qui soit dans l'alimentaire. Je trouve que c'est scandaleux quand on en est là. C'est qu'on est vraiment des pays riches, qu'on ait accès à la nourriture pour tous, bien sûr. Mais je pense que ce qui est important, c'est comment on va pouvoir déjà nourrir le monde et quelle est la place de l'agriculture qui est quand même le premier réel qui a été confié à l'homme.
D'accord, mais pour prolonger votre remarque, ça peut être une manière de commencer à répondre à cette injonction de ce président américain que vous citez, qui en l'occurrence donc, est George Bush, de commencer par faire en sorte qu'on consomme d'abord ce qui est produit en France quand on est soi-même français.
Tout à fait. fait, bien sûr.
Vous,
c'est
pour
c'est
votre
que le commerce
part,
équitable soit franco-français d'abord.
Vous qui avez été exploitant bovin viand, est-ce que vous pensez que ça aurait favorisé votre activité tout au long de ces années?
Ben, nous, on a fait une démarche qui allait directement du producteur au consommateur. Donc, on a touché, bien sûr, les clients français. Et on a été. Et si on exporte un tout petit peu, c'est auprès de Français qui sont partis à l'étranger, qui nous ont demandé si on pouvait les suivre. Mais pour le reste, c'est clair que le marché pour nous, c'est le marché français. Et justement, je trouve qu'un des syndicats agricoles français propose l'exception agriculturelle pour qu'on ne mette pas l'agriculture dans le domaine économique mondial et dans cette mondialisation générale. Donc pour nous, bien sûr, le marché français, c'est le premier marché à fournir. Et on a en France tout ce qu'il faut pour fournir tous les Français au niveau alimentaire.
Voilà, quand vous dites ce syndicat, en fait, c'est un candidat à l'élection, non, François de Monet, donc, qui propose cette exception agricole.
Oui, donc c'est Nicolas Dupont-Aignan qui propose d'instaurer une exception agricole à l'Organisation mondiale du commerce et dans tous les accords commerciaux sur le modèle de l'exception culturelle française.
Oui.
Voilà, donc ce serait... Et alors,
mais il y avait un syndicat qui le mettait en avant depuis longtemps, mais je trouve très bien qu'un des candidats, de fait, le reprend.
Alors on sait à quoi ça pourrait ressembler, peut-être, si on doit s'arrêter juste sur ce volet. Donc Nicolas Dupont-Aignan, je rappelle qu'il est à la tête donc, du parti Debout la France. À quoi ça ressemblerait, en fait, cette exception? Parce qu'une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire que...
Ça veut dire qu'on se donne les moyens que l'agriculture soit pas une monnaie d'échange avec le reste de l'économie. Quand la France vend des Airbus ou des trains au Brésil, elle accepte qu'il y ait des poulets qui viennent du Brésil. Quand on vend à la Chine, on accepte aussi que les produits chinois rentrent en France. Nous, c'est de mettre l'agriculture au service de l'homme. C'est justement de mettre l'homme au cœur et que l'agriculture soit le principe nourricier d'une population. Et que donc, on ait cette autonomie en cas de, bien sûr, qu'on est dans un monde où on pense que tout est beau, tout est gentil et que tout le monde, tout ira bien. Mais... Tous les chercheurs montrent bien que la faim dans le monde, c'est simplement un problème de répartition, qu'on a de quoi nourrir le monde entier, mais que l'économie ayant pris le dessus, on ne le répartit pas. Donc, de fait, de nourrir d'abord, de retrouver des bases saines dans lesquelles l'homme est premier et dans lesquelles on lui fournit une alimentation saine.
Voilà, donc c'est donc exception culturelle, mais c'est aussi une forme de relocalisation des marchés.
Bien
derrière,
sûr.
Voilà. Qu'est-ce que vous diriez sur ce volet, appliquer le patriotisme économique voilà, vous êtes tellement nombreux que je m'y perds, Axel Tranvan, pour présenter donc la FDSEA 31.
Disons que bon, moi j'ai bien entendu ce qu'il vient de se dire précédemment, quoi, et je le rejoins tout à fait sur la forme, hein, parce que bon, voilà, bon, moi c'est vrai que j'ai une vision qui est quand même un peu plus peut-être économique, quoi, sur la chose, hein, parce que bon, comme on dit, on travaille, et bon, normalement, tout travail mérite salaire, hein, comme disait l'adage. Moi je tenais quand même à rappeler une chose, c'est que la France est quand même le deuxième exportateur mondial de produits alimentaires tout confondus. Hein. Quand je dis tout confondu, on inclut la viticulture, on inclut les fromages ou autres. Donc, fermer nos frontières, quoi, dans les deux sens, quoi, je pense que...
Vous dites quoi, on est premier exportateur mondial, c'est ça?
Deuxième exportateur mondial de tout produit alimentaire tout confondu.
Ouais, moi, j'avais lu sixième, hein, derrière les États-Unis, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Brésil et la Chine. Enfin, en tout cas, on fait partie des principaux. C'est...
Et il y a, je pense que, voilà, il y a peut-être la viticulture qui inclut, enfin, dans mon compte, quoi, c'est un compte qui inclut tous les produits, quoi, transformés aussi, quoi.
Mais alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire
donc,
que...
moi, je pense que...
D'appliquer le patriotisme économique, ça serait pas logique, du coup, c'est ça?
Enfin, ou... alors, je pense que le patriotisme économique, c'est pas le mot qu'il faut, comment dire, c'est pas le mot qu'il faut employer pour ça. Moi, je pense qu'on peut pas se fermer tous les marchés d'exportation qu'on a. On l'a vu avec l'embargo sur la Russie, quoi. On a vu la conséquence que ça avait directement sur les producteurs de lait, quoi, du fait qu'on avait un débouché qui s'était fermé. Hein. Donc, je pense que si on se fermait par rapport au reste du monde, je pense qu'il y a de nombreuses productions qui subiraient une circonstance égale à ce qui s'est passé. Moi, je pense que il faut quand même qu'on privilégie tout ce qui est fait en France, comme ça a été dit précédemment, puisque bon, comme vous l'avez rappelé en commençant l'émission, on n'a pas les mêmes contraintes au niveau de sécurité de ces produits. Donc je pense qu'il est très important, lorsqu'il y a un produit qui est sur un étalage, qui est français, qui est fait localement, je pense qu'il est très important de marquer ce produit de façon bien distincte pour le consommateur.
Ce qui est déjà le cas aujourd'hui, non? C'est...
Je pense pas.
Ça se voit de plus en plus dans les supermarchés. Il y a marqué Made in France ou fabriqué en France.
Tout à fait, mais ça commence à se développer. Mais alors, une fois de plus, je pense que nous, les agriculteurs, pour la plupart, on a perdu la main sur cette commercialisation. Elle a été prise par des grands groupes transformateurs qui ne sont pas peut-être forcément les plus à même de privilégier un produit français qui est quand même à un prix de revient qui est quand même supérieur à des produits qui viennent de l'étranger, puisqu'on l'a dit, hein, on n'a pas, une fois de plus, on n'a pas les mêmes contraintes, même au point de vue salaire ou autre. Donc je pense qu'il faut que les agriculteurs reprennent la main.
Attends, excusez-moi, j'ai pas compris là, en fait. Vous dites donc de plus en plus ces produits sont labellisés Made in France, que vous voudriez en fait qu'ils le soient de manière plus systématique, mais vous nous dites en fait d'une certaine manière, c'est pas vous qui avez la main sur ces labels, c'est ça?
Non,
c'est...
on n'a pas la main sur la commercialisation. Et c'est, je pense, un grand problème de l'agriculture actuelle. Nous sommes les producteurs, nous sommes le plus bas maillon de la chaîne, hein, je veux dire indispensable. Mais bon, comme on le voit, quoi, le prix payé au producteur est totalement dérisoire par rapport au prix que va payer le consommateur sur des étalages. Et je veux dire que cette partie du prix qui représente pour des produits plus du trois quarts, quoi, elle n'est pas redonnée aux agriculteurs.
Mais alors quelle est la solution? La solution c'est quoi? C'est justement la multiplication des circuits courts, c'est de,
bah,
disons de la vente directe.
Je pense que la vente directe, les circuits courts, c'est tout à fait possible, c'est très bien pour ce que ça se passe. Par contre, vous n'allez pas dire à un agriculteur qui a 800 tonnes de blé dans son silo d'aller faire un circuit court, d'en sacher des petits sachets de 5 kilos et de les vendre en circuit court. Moi je pense que on essaye de faire, je pense qu'il faut créer des filières. Il faut créer des filières, il faut labelliser ces filières. Moi, j'ai vraiment du mal à comprendre lorsque, bon, on reçoit des pâtes qui viennent d'autres pays bien marquées ou avec des jolis emballages. J'ai vraiment du mal à comprendre comment nous, on ne pourrait pas créer des pâtes avec des producteurs locaux, que ces pâtes ont été produites en Midi-Pyrénées, qu'elles ont été
bien
nourries par un soleil.
Vous appelez quasiment la construction de marques, en fait, locales, c'est ça?
Tout à fait. Moi, je pense qu'il faut organiser...
On mange des pâtes à partir des céréales produites dans
c'est
le coin,
ça, mais
etc.
Je pense qu'il faut organiser des filières qui puissent être en mesure de commercialiser les produits et de les vendre elles-mêmes aux distributeurs, quoi. Pas laisser aux distributeurs la même mise sur l'ensemble de la transformation de nos produits. Voilà, je pense qu'il y a un grand manque à gagner dans notre attitude que nous avons à l'heure actuelle, quoi, et qui serait quand même bénéfique pour pouvoir remonter les prix payés aux producteurs.
Alors, on peut pas donner la parole à tout le monde, mais François de Monet, vous aviez une remarque?
Oui, alors sur les circuits courts, quasiment tous les candidats à la présidentielle en parlent, donc de Marine Le Pen en passant par Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et même François Fillon. On peut noter qu'il n'y a qu'un seul candidat qui n'en parle pas, c'est Emmanuel Macron. Voilà.
Voilà, c'est une précision importante. Alors, je voulais vous lancer sur un autre sujet. Je suis désolé en avance, mais gardez en tête ce que vous avez comme type de réaction. Et surtout, Serge Bladinière, n'hésitez pas à prendre la parole, hein, parce que comme je ne vous vois pas,
oui,
mais vous faites partie du plateau, voilà, n'hésitez pas. Il y a un autre volet qui ressort, en l'occurrence, c'est Nicolas Dupont-Aignan, donc de Debout la France, mais c'est repris aussi par Jacques Chaminade de Solidarité et Progrès. C'est refuser les traités transatlantiques. Voilà, on sait qu'il y a un accord qui a été signé il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle le CETA, qui a donné lieu à un certain nombre de manifestations. Voilà, peut-être même y a-t-il d'autres candidats en fait qui refusent ces traités transatlantiques. Bref, il y en a en tout cas une partie. Qu'est-ce que vous diriez sur ces sujets? Est-ce que ces traités transatlantiques, vous êtes farouchement contre vu de votre position? Maurice Villa, qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet?
Pas grand chose peut-être, mais on anime un débat sur des éléments qui nous échappent totalement. Je voudrais revenir un tout petit peu sur ce qui a été dit précédemment, excusez-moi, je vais essayer d'être très bref. Si la crise est telle qu'elle est, c'est aussi la faute à l'ensemble de la société que nous sommes, et pas uniquement des responsables de ci, de là. Nous allons rentrer dans la période de Pâques. À Pâques, les Français vont manger des gigots d'agneau en masse. Il y a un millier ou plus de points de vente de grande distribution en France qui vont chacun distribuer des centaines de gigots. Dans les 48 heures, ils vont arriver de Nouvelle-Zélande. On a là une machine de guerre absolument épouvantable, alors en tout cas extrêmement efficace. Et relocaliser la culture, l'élevage dans ces conditions des agneaux en France me paraît extrêmement difficile.
C'est-à-dire extrêmement difficile, parce qu'on pourrait imaginer qu'on achète des agneaux français, non?
Oui, certes, mais on a en face un outil absolument extraordinaire. J'ai vu un rapport concernant les cultures spécialisées dans des pays comme l'Australie et la Nouvelle-Zélande. J'ai vu un rapport en particulier disant « Nous avons appris à faire des oignons pour l'hémisphère nord ». vaste programme. Et maintenant, nous allons nous adresser à toute la gamme des cultures susceptibles, sans dommage, de traverser la moitié du monde. Donc on a en face de nous des gens qui sont extrêmement performants et qui sont dans la logique invasive sur le marché mondial.
Donc vous voulez dire par là que la relocalisation des marchés n'est pas si simple que ça ?
Elle n'est pas simple du tout, d'autant plus que, effectivement, je rappelle que je suis parti sur l'idée que quelques milliers de points de vente vont nous vendre quelques centaines de milliers de gigots d'agneaux dans une semaine.
Voilà, mais est-ce à dire du coup que la seule solution, ça serait au final, en fait, surtout, hein, François de Monnaie, vous me corrigez, ce qui apparaît uniquement presque dans le programme de Marine Le Pen et puis un petit peu de Nicolas Dupont-Aignan, en fait, de protéger l'agriculture française, de favoriser en fait un certain protectionnisme pendant au moins quelques années pour arriver à travailler à cette relocalisation des marchés. Qu'est-ce que vous diriez, François
Pierre Mel ? Je pense qu'on ne le fera pas que par, justement, ce n'est pas le politique qui pourra décider pour tout. Je pense que, toujours dans le principe de subsidiarité, le politique doit analyser, mais ce qui nous manque, c'est un choix de société, en fait. Parce que, de fait, on a de quoi produire, et on peut produire en France tout ce qu'il faut. Les agneaux, il peut y en avoir en France. Le problème, c'est qu'économiquement, comme on a mis en avant justement la finance, ben ça coûte moins cher de les faire venir de Nouvelle-Zélande. Par contre, ce qui est caractéristique quand même, c'est que l'agriculture avait généré, pour se défendre elle-même, des structures absolument géniales, à travers la coopération, à travers les syndicats, à travers la banque, à travers l'assurance. Et en fait, tout ça est en train de lui échapper, puisque ces mêmes coopératives qui grossissent sans cesse participent à cet aspect-là. On n'est plus en train de discuter avec le consommateur.
Expliquez ça un tout petit peu plus, parce que pour ceux qui ne sont pas familiers en fait, monde agricole, qu'est-ce que vous voulez dire par là en fait ? C'est qu'en France, il y avait un maillage en fait, de coopératives,
bien
c'est
sûr,
ça ?
À l'initiative naturelle, de la profession,
et qui a disparu,
il y a une explosion de solutions géniales.
Récemment ?
Après la guerre.
Après la guerre, d'accord.
Et aujourd'hui, on est plutôt en train d'assister à un renouveau de structures à taille raisonnable, toutes petites, et puis qui deviennent moyennes, parce que les grosses structures continuant à être gérées par des agriculteurs, mais qui ont pris des dimensions internationales, et qui sont plus soucieux, nécessairement vu leur taille, de la finance, que de la survie de leurs producteurs à la base. Aujourd'hui, qui explique aux consommateurs justement que quand on achète les deux cuisses d'un agneau, les deux gigots, il y a tout le reste qu'il faut vendre et qu'avec tout le reste, on peut se régaler. Mais aujourd'hui, on est plus dans une poussée en avant par l'industrie, d'une spécialisation et d'une satisfaction qu'on vient créer éventuellement en disant manger du festif tous les jours. Aujourd'hui, on veut avoir du bon vin à table, on veut avoir que des produits, on veut avoir du foie gras presque tous les jours, on veut avoir des magrets, et on ne prend pas en compte toute la production et tout ce qu'on peut tirer de l'ensemble.
Alors,
donc il y a une éducation à refaire, il y a une conscience à reprendre.
Serge Bladinier, est-ce que vous avez une réaction avant qu'on continue le débat ? Je ne voudrais pas vous oublier complètement.
Sur le marché, moi je pense très franchement qu'on ne peut pas aller vers un repli. À la fois, aujourd'hui, même si on peut tendre, s'il faut tendre vers une revalorisation des produits agricoles, il est bien évident que sans l'aide de l'Europe au soutien aux filières et surtout avec des aides peut-être qui dans le temps pourraient être évolutives en fonction des cours des produits, ça me paraît trop dangereux pour l'agriculture d'aller vers un repli. Par contre, je crois aussi qu'il ne faut pas oublier que nous avons la chance d'être un des premiers pays exportateurs en matière agricole, et malgré tout, même si des fois la concurrence paraît déloyale, il est important de garder ce marché. On ne peut pas se replier. Je prends un exemple dans un domaine que je connais un peu mieux, le domaine du vin. C'est vrai que l'exportation est aujourd'hui très sincèrement le salut de la viticulture. Alors, c'est vrai que il faut être plutôt aujourd'hui ouvert. Alors on a des difficultés, certes, on le voit bien, mais ce n'est pas par le repli qu'on solutionnera ces difficultés. Enfin, je ne le crois pas.
Mais alors attendez, Serge Bladinière, malgré tout, il ressort comme une contradiction en fait dans ce que vous dites. C'est-à-dire qu'à la fois, l'agriculture française souffre, en même temps, c'est un marché d'exportation, et donc il y a comme une tension impossible. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a une très grande concurrence, et en même temps, quelque part, on ne peut pas faire autrement sous prétexte qu'on a un marché exportateur. Donc il y a comme une injonction contradictoire, et d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on voit parfois dans les médias. C'est-à-dire que, à la fois, il faudrait relocaliser les marchés, et en même temps, on profite de ce marché mondialisé. Comment arriver à tenir les deux ? Parce qu'au final, semble-t-il, les agriculteurs en bavent.
Non, mais ce qui a été dit par mes prédécesseurs, il est bien sûr qu'il faut développer à la fois les circuits courts, essayer que les Français consomment de plus en plus des produits près de chez eux, à la bonne saison et près de chez eux, ça on est tout à fait d'accord, mais il faut aussi que nos produits puissent être exportés. Je crois qu'on n'arrivera pas... Alors bien sûr, la compétitivité est en jeu, et là peut-être il y aura le rôle notamment de l'Europe d'aider l'agriculture de façon plus harmonieuse et équitable, et aussi notamment sur le coût des salaires, par exemple. Là aussi, il faut une harmonisation sociale et fiscale qui nous aidera, comme dans d'autres domaines. Mais l'agriculture, avec visant uniquement un repli, serait vraiment, pour moi, ça serait très pénalisant et très réducteur pour nos producteurs.
Alors Dominique, bon, j'ai bien vu que vous vouliez prendre la parole, mais il faut qu'on avance parce qu'on a encore plein de sujets. Alors rapidement.
Juste un mot, hein, je voulais simplement m'inscrire en faux par rapport à toute analyse, si vous voulez, qui est faite actuellement. Je dirais qu'en gros...
Avancez-vous près du micro, s'il vous plaît.
J'étais en Tunisie quand j'ai vu des paysans tunisiens jeter le lait dans les champs parce qu'ils ne pouvaient pas acheter leur propre lait. Dans la concurrence internationale, ils étaient obligés de le détruire. Et ça, dans un pays qui est en difficulté, c'est un scandale. Un scandale qu'on doit un peu manger chez nous, parce qu'on est responsable de ce scandale. La situation actuelle, elle est quand même la conséquence d'une mauvaise vision de l'avenir qu'aujourd'hui se révèle. Et donc la crise, je dis pour moi, elle n'est pas aujourd'hui, elle était hier, quand effectivement on a fermé les yeux sur des intérêts particuliers de nos sociétés industrielles, de nos sociétés de consommation, de nos sociétés de spectacle, où on a déresponsabilisé les citoyens par rapport à l'avenir qui était le leur, et où on a fait en sorte que petit à petit, ils se retrouvent démunis en disant qu'est-ce qu'on peut y faire, on n'y peut rien, on est là des objets dans un monde qui nous échappe complètement. Et donc l'histoire de l'agriculture bio, je n'ai pas du tout envie d'en faire une mythologie, si vous voulez, ni en faire quelque chose, mais n'empêche que c'est quelque chose qui se rapproche du consommateur en disant l'agriculteur que près de chez moi, moi, c'est celui avec qui je vis, c'est celui qui me fait vivre, et c'est celui avec lequel, dans mon village, je dois faire une symbiose qui soit, je dirais, du domaine même de la biodiversité élémentaire. Donc, alors, moi, je suis absolument pour toutes les agricultures de proximité, c'est sûr qu'on le dit depuis longtemps. Hein, la souveraineté alimentaire, c'est une logique, pas une politique, au sens où on doit s'enfermer sur notre petit trésor et pas partager avec les autres. Mais il faut qu'on montre là le spectacle d'une société qui trouve à se renouveler à partir de l'agriculture, parce que c'est le domaine vivrier, dans des cercles de responsabilité de citoyens. Et dont Elder Camara disait depuis longtemps, on n'a pas besoin de vous chez vous, même si on est en difficulté. On a besoin de vous chez vous. C'est-à-dire que vous nous donniez effectivement, je dirais, les clés en expérimentant sur votre petit paradis qu'est la France, parce qu'il faut quand même bien se mettre en situation qu'on peut vivre heureux en France. Hein. Alors, mais c'est pas sur une histoire de fermeture politique. Hein, on va là, nous, en Andalousie, aider des paysans de basse montagne en Espagne, parce qu'effectivement, il faut effectivement que ces pays-là aussi puissent avoir leur dignité et leur autonomie financière.
Voilà, on va faire une première pause musicale. En tout cas, c'est bien difficile, c'est très intéressant, hein, mais c'est vrai qu'il y a tellement de sujets à évoquer. Voilà, on va faire un peu les comptes pendant la pause, et puis voilà.
Je suis le roi des cons.
Voilà cette émission Vivante Église ce matin, écologie et agriculture vers un nouveau monde, point d'interrogation. Donc première série d'une émission, série d'émissions à l'occasion des élections présidentielles, où on prend les grands thèmes de campagne et on fait intervenir des acteurs de la région Occitanie pour essayer de réagir sur les programmes des candidats. Donc la région Occitanie en l'occurrence qui est représentée donc par le Lot, l'Ariège, la Haute-Garonne et l'Aude. Avec autour du plateau, je fais très vite, François de Kerimel, donc vous êtes exploitant bovin-viande dans l'Ariège. Ouais. Axel Tranvan, vous êtes représentant de la FDSEA 31, exploitant céréalier. Serge Bladinière qui est en studio avec nous depuis Cahors, président de communauté de communes rurales dans le Lot, donc, et ancien vigneron. Maurice Villa, arboriculteur dans l'Aude, et Dominique Gibon, président des Amis de la Terre, et puis François Demonès, qui est donc étudiant à l'EJT, école partenaire de cette série d'émissions. Alors, on essaye d'avancer, il y a tellement de sujets, c'est difficile. Peut-être pour rebondir sur ce que vous disiez juste avant cette pause musicale, Dominique Gibon, vous parliez du bio. Alors allons-y. Le bio, peut-être je vais commencer par donner la parole à François, je vais dire moi ce que j'ai trouvé, et puis François qui est le spécialiste programme complétera. Moi j'ai trouvé qu'il n'y avait quand même pas grand-chose, on avait Benoît Hamon qui invitait à changer de modèle agricole, qui insistait sur le bio et qui insistait, tout comme Emmanuel Macron, pour qu'il y ait 50% des repas bio dans les restaurations collectives. Et Jean-Luc Mélenchon, donc président du parti La France Insoumise, qui est en effet aussi pour le développement du bio. Bref, j'ai trouvé que le bio était plutôt en mode mineur. Alors, est-ce que j'ai bien regardé, François de Menesse ?
Oui, effectivement, on n'en parle pas énormément dans les programmes, si ce n'est pour parler des pesticides et des OGM. Donc les pesticides qui seraient interdits par Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou. Et les OGM, donc interdiction des OGM pour Nicolas Dupont-Aignan, François Asselineau, Jean-Luc Mélenchon. Et Marine Le Pen, elle, parle d'un principe de précaution à appliquer aux OGM tant qu'on n'a pas réussi à démontrer leur dangerosité.
Alors, sur le bio, vous pouvez réagir ce qui a été dit là, hein, mais peut-être la première question, c'est que on lit souvent dans la presse, alors j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais que le bio ne cesse d'augmenter, la part du bio, la part des terres en fait, en exploitation bio, mais le bio est-il la formule magique qui va sauver l'agriculture française ? Est-ce que ça, c'est pas une vue très parisienne en l'occurrence ? Maurice Villa.
Oui, le bio à son origine était une réponse à un souci des problèmes émergents liés à l'utilisation de pesticides de plus en plus sophistiqués. De pesticides, vous voyez, je suis déjà imbibé de l'idéologie. Je voulais dire des produits phytosanitaires. C'est devenu une mode grandissante. Aujourd'hui, il y a un virage assez important puisque le bio, l'alimentation bio se mondialise aussi et on reçoit des produits labellisés bio en provenance du monde entier. On a eu récemment un scandale sur en tout cas une mise en question sur la qualité bio de bananes, ai-je aperçu.
Donc le bio, enfin, ça a du bon, ça se généralise, mais est-ce que c'est la solution ? Est-ce
en
que toute
se généralisant,
la France peut se mettre à devenir
bio ? En se généralisant, il se dégrade et il devient de plus en plus une réponse administrative à un processus de contrôle. Mais je suis effaré que l'appellation bio ne soit pas liée à une analyse effective du produit qu'on a dans les mains en tant que consommateur.
C'est-à-dire, vous voulez dire en fait, c'est juste lié à la manière dont on exploite, c'est ça ?
C'est lié à un engagement sur papier suite à une visite d'un labellisateur. Et il y a quelques entreprises spécialisées là-dedans, dont une qui a fait un peu parler d'elle, qui est Ecocert, pour ne pas la nommer. Et beaucoup d'agriculteurs considèrent qu'ils ont la visite de quelqu'un qui vient leur prendre une demi-journée de palabres pour une facture de 400 euros et que derrière, il n'y a pas grand-chose. Je ne mets pas en cause le fait qu'effectivement, il y a des démarches authentiques chez les agriculteurs voulant être bio. Mais dans ma région, depuis quelques années, il y a une course à la conversion bio. Et je connais des agriculteurs qui font des centaines d'hectares bio, labellisés bio parce qu'il y a une prime de conversion. Donc encore une fois, nous revenons à la chasse à la prime plutôt qu'à un travail authentique d'agriculteurs responsables du territoire qui est le sien.
Alors, excuse-moi, je vais essayer de résumer votre pensée. C'est-à-dire que vous dites que le bio se développe, que c'est plutôt une bonne chose, mais à vous entendre, en fait, on tomberait dans un certain nombre d'écueils qu'on a connus précédemment, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de mondialisation du marché bio, déjà,
oui.
Et puis, comment dire, les normes qu'on imposait à l'agriculture, pour faire très court, à l'industriel, en fait, sont en train de devenir les normes de l'agriculture biologique et la course aussi aux subventions, c'est ça
Oui, et la course subvention se traduit par un amoindrissement de la réalité éthique de la culture bio. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui ne font la conversion bio juste avant de partir à la retraite pour pendant 3 ans. Pardon de dire ça, c'est un peu attristant, mais pour pendant les 3 dernières années de leur vie professionnelle, engranger les primes supplémentaires.
Axiel Tranvan, pardon, qu'est-ce que vous diriez sur ce volet du bio ?
Moi, je voulais réagir sur ce bio. Bon, certes, le bio, c'est une mode qui est en France. Hein. Je pense que c'est une mode déjà qui est...
Qui a aussi du bon, quand même, non
c'est... Quand je dis une mode, c'est pas en utilisant
pas
le terme péjoratif, hein, tout à fait. C'est, comment dire, c'est en vogue dans les pays riches, quand même. Hein, il faut dire ce qu'il y en est. C'est vrai qu'en France, on a quand même un pouvoir d'achat qui est quand même assez élevé. Donc, c'est vrai qu'il y a une partie de consommateurs qui ne refusent pas à payer plus cher un produit qui correspond à leurs attentes ou à leurs besoins ou à leur éthique. Par contre, moi, ce que je veux mettre en garde, c'est que la consommation du bio est réservée à une certaine partie de consommateurs.
Vous voulez dire que c'est un truc de bobo, c'est ça, le bio ?
Je ne vais pas aller jusqu'à dire de bobo, je veux dire que c'est quand même un marché qui est destiné aux gens aisés. Je pense qu'il
Pourquoi
y a encore...
Pourquoi ? Parce que c'est cher ?
Parce que c'est un prix quand même qui est très élevé par rapport à un produit conventionnel. Donc je pense qu'il y a quand même une partie de personnes en France qui ont un pouvoir d'achat qui est très limité, qui sont très contents de pouvoir trouver sur les étalages des produits qui sont quand même à des prix abordables, qui correspondent à leur porte-monnaie. Donc voilà. Après, concernant le bio, comme ça a été dit aussi précisément, je pense qu'on prend le risque autant dans le bio que dans l'agriculture conventionnelle à partir du moment où on importe des produits de l'extérieur. Je pense qu'il peut y avoir peut-être des déviances sur le bio, mais une fois de plus, le bio français est bien plus sûr, puisque l'agriculture française est une des agricultures les plus contrôlées et les plus sûres au monde. Le bio français est bien plus sûr qu'un bio qui viendrait d'une provenance comme on peut le voir des pays de l'Est ou autres, où il y a des enjeux et les exploitations ne sont pas gérées forcément par le monde agricole, par des agriculteurs, sont plutôt gérées par des personnes qui sont aisées financièrement. Donc là, je pense qu'une fois de plus, il ne faut pas que ça vienne une mode. Moi, je suis un peu atterré lorsqu'on voit des marques distributrices qui vous cassent des prix sur des bio en faisant provenir des produits de divers pays de l'Est, quoi. où c'est sûr, il peut y avoir une origine douteuse sur la marchandise. Donc je pense, une fois de plus, privilégier quand même le marché français.
Alors cet aspect du bio, et vous parlez donc du budget des ménages, il y a aussi quelque chose qu'il faut préciser et qu'on entend souvent au sujet de la crise agricole, c'est que après-guerre, 55%, alors c'est environ peut-être 50% plutôt, du budget des ménages était consacré à l'alimentation. Aujourd'hui, on est tombé à 12%. Et en fait, souvent, ce qu'on entend, c'est que c'est un peu ce que vous avez dit dans la première partie, en fait, c'est que la réponse, c'est les consommateurs qui l'ont. Voilà, il faut acheter localement, il faut essayer de quand même peut-être d'acheter français, en tout cas, enfin, les gens en proximité. Et puis, il faut peut-être accepter aussi de mettre un peu plus d'argent dans le budget du ménage, chose que ne peuvent pas faire tout le monde. Vous n'avez pas l'air d'accord, Dominique Gibon.
Non, moi, je suis absolument pas d'accord.
Tant mieux, c'est pour ça. Vous êtes là pour ça.
En gros, moi, je veux bien qu'on se consacre sur la notion bio, mais ce qui me paraît important, c'est la notion logique. La biologie, si vous voulez, la logique de faire en sorte de consommer des choses saines, avec un regard ou une solidarité avec le producteur qui vous nourrit, je dirais, c'est logique. C'est quelque chose qu'il faut remettre sur la table et dire, ben c'est ça la logique élémentaire sur laquelle on devrait vivre. Et dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres.
Il n'y a pas de contradiction avec le bio, si je peux me permettre.
Il n'y a une contradiction avec le bio, mais se fixer sur la notion bio pour reverdir un petit peu tout ce qui va vous arriver de n'importe où, dans n'importe quelle condition, ça, nous, on est depuis longtemps opposés, si vous voulez manger.
Mais enfin, côté consommateur, il faut bien s'y retrouver quand même. C'est...
Mais que le consommateur, s'il reste consommateur, se satisfasse, je dirais, de cette notion-là, je dis ça, le regarde, il est responsable, c'est pas moi qui vais pleurer sur son sort.
Non, mais il faut bien qu'il y ait une traçabilité des aliments.
La traçabilité, elle existe s'il est, lui, le contrôleur du produit qui le met en route. C'est-à-dire qu'en gros, la proximité dans la base de la nourriture, si vous voulez, si on va en Andalousie pour voir comment sont cultivées les oranges et les avocats qu'on mange, c'est aussi parce que, ben, je dirais, en même temps, de prendre des vacances.
Oui, mais enfin, tous les petits Toulousains peuvent à chaque semaine aller en voiture.
Et pourquoi,
ben,
et pourquoi
parce que ça serait polluant déjà si on allait en voiture chercher nous.
Pourquoi est-ce que la pollution, si vous voulez, c'est quand les tomates de Hollande croisent celles d'Espagne, je dirais, à Brive-la-Gaillarde. Ça, c'est polluant, si vous voulez. Le reste, je dirais, des démarches qui font qu'on a un contact direct avec les producteurs qui nous nourrissent et avec, je dirais, même les autres professionnels qui se chargent non pas de notre consommation, c'est-à-dire qu'on sort d'une notion de consommateur en consommateur, c'est-à-dire qu'on a un rôle. Et si nous, on augmente des fois, malgré nos producteurs, le prix des produits qu'ils nous vendent, c'est qu'on veut qu'ils durent, c'est-à-dire qu'on veut qu'ils tiennent le coup. Si ça nous arrive, je dirais, de payer en avance pour qu'ils puissent payer la MSA parce qu'il a mal calculé son truc et il y a une facture qui arrive, et bien c'est pour qu'ils puissent continuer à
donc
exister.
Il faut recréer des liens directs,
sûr,
en fait, entre consommateurs et producteurs.
Et ça, c'est effectivement, à partir de la notion vivrière, repenser une société sur d'autres bases que seule la base du profit, où effectivement, de 55 à 15%, on passe sur le fait de mettre de quoi garder sa bonne santé. Et ça, je crois que c'est une interrogation aussi aujourd'hui. Comment est-ce qu'on se soigne avec sa nourriture et non pas avec des médicaments qui viennent des laboratoires, qui nous coûtent de plus en plus cher et qu'on ne paye pas parce que c'est la sécurité sociale qui paye.
Alors,
on est quand même sur une société d'assister à tous les niveaux et on est en train de le payer.
On a compris. On va avancer si ça ne vous embête pas. On va finir. Pardon, Serge Bladinière, vous vouliez intervenir.
Juste un mot quand même, parce que je crois qu'il ne faut pas opposer les modes de production agricole. Le bio s'est développé, se développera sûrement encore, mais on ne pourra pas baser uniquement toute l'alimentation sur de la production bio. Du moins, je ne le crois pas. Donc l'agriculture raisonnée, c'est quand même pas qu'une vue de l'esprit. Aujourd'hui, les agriculteurs qui travaillent en traditionnel travaillent aussi de façon de plus en plus propre. Et tout à l'heure, on parlait de consommer au plus près de chez soi, faire venir des produits bio de plusieurs milliers de kilomètres, je crois pas que ce soit non plus la solution. Donc je crois qu'il faut pas opposer les mondes d'agriculture, il faut tendre vers de moins en moins d'intrants dans la production agricole, mais le label bio en est un. Je crois qu'il y a aussi d'autres façons de produire tout en respectant suffisamment l'alimentation et surtout le consommateur.
Voilà, donc on finit sur ce volet monde agricole. Évidemment, on n'a pas cité toutes les mesures, loin s'en faut. J'aimerais quand même qu'on parle un tout petit peu écologie, même si en fait on a parlé écologie d'une certaine manière. Le constat est simple, donc il y a les fameux accords de Paris qui ont été signés suite à la COP21, qui s'engagent donc à une réduction, enfin les pays signataires de cet accord de Paris s'engagent à une réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 importante, presque 40% par rapport à 90, plus de consommation énergétique et plus d'énergie renouvelable d'ici 2030-2050. La crise, alors là, on ne peut pas faire une émission pour savoir si ou pas il y a crise écologique. En tout cas, 95% de la communauté scientifique, donc via via le GIEC est d'accord pour dire qu'il y a une crise écologique, et ce, de multiples manières, dues entre autres au réchauffement climatique avec toutes les incidences que ça a. Bref, si on se plonge côté écologique, déjà, moi, il y a une chose qui m'a frappé, vous allez me dire, François de Monnet, c'est qu'en fait, la COP21... il n'y a que Benoît Hamon qui en parle. Philippe Poutou du nouveau parti anticapitaliste se plaint qu'elle n'est pas allée assez loin, mais le seul en fait à citer les objectifs de la COP21, c'est Benoît Hamon. Alors peut-être que les autres se sont dit bon bah c'est voté, j'ai pas besoin d'en parler. Est-ce que vous avez été aussi surpris par ça?
Bah oui, effectivement, seul Benoît Hamon parle de la COP21 dans son programme et tente de se conformer aux objectifs qu'elle a fixés. Et effectivement, Philippe Poutou l'évoque pour en fait parler de la situation actuelle et de la crise écologique, mais rien de plus dans les programmes des candidats.
Voilà, alors peut-être qu'ils sont partis du principe que ça avait été voté. Il faut quand même préciser que Marine Le Pen, elle, n'aborde pas beaucoup la question, mais qu'on l'a entendu dire dans les médias qu'elle était assez réservée parfois sur le thème du changement climatique, disant qu'il ne faut pas en faire une religion. En tout cas, François Fillon, donc, dans son programme, dit qu'il faut favoriser les filières industrielles françaises des énergies renouvelables. Alors, c'est peut-être une tarte à la crème, mais au moins, il insiste là-dessus, il pousse dans ce sens. Qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet? C'est inévitable et nécessaire, Dominique Gilbon?
Mais pour nous, c'est évident, si vous voulez.
C'est pas commun d'avoir quelqu'un d'une ONG qui est d'accord avec François Fillon.
Ah, mais je dirais que les bonnes propositions, si vous voulez, exactement comme on a été un peu à ce moment-là, en traînant les pieds, on est allé au Grenelle de l'environnement, et on s'aperçoit que les conclusions du Grenelle de l'environnement, si elles étaient appliquées sérieusement, comme ça, les décisions de la COP21, si elles étaient vraiment appliquées, ce serait des avancées spectaculaires par rapport à l'ensemble des dispositifs qui devrait changer notre société, nos modes de fonctionner.
Mais restez sur la mesure, filière industrielle française des énergies renouvelables, ben ça vous semble nécessaire?
C'est là aussi, c'est des principes de proximité qui font qu'on doit se conformer, je dirais, à l'équilibre naturel dans lequel on vit, pour faire en sorte de tirer le maximum de profit des bienfaits de la nature telle qu'elle est à notre proximité. Je dirais qu'on est en retard par rapport, je dirais, au programme solaire qu'ont les Allemands ou les Hollandais, c'est inexplicable, dans notre région Midi-Pyrénées, où on a du soleil plus que les Allemands et les Hollandais. On est en retard sur tout un tas de propositions parce que économiquement ou d'une manière visible, le nucléaire pour nous était à vendre et il fallait un peu mettre sous le boisseau, je dirais, toutes les autres énergies qui pouvaient faire ombrage au nucléaire sur lequel on a, nous, des difficultés d'intégrer la notion du fait qu'on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, mais on l'emprunte à nos enfants. C'est-à-dire, qu'est-ce que deviendra demain dans tous les systèmes qui nous sont profitables aujourd'hui. Donc si effectivement François Fillon dit qu'il faut développer tous les systèmes d'énergie de proximité et d'énergie naturelle, on dira bah, ça c'est bien. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui, s'ils ne le disent pas, le pensent quand même, je dirais, à demi-mot dans leur programme. Donc ce n'est pas quelque chose, je dirais, qui est particulièrement révolutionnaire au point de dire on va soutenir un candidat ou un autre. Je dirais qu'il faut le replacer dans tout un tas d'autres contextes.
Alors il y a d'autres mesures, je crois que c'est Emmanuel Macron qui dit qu'il faut multiplier par deux donc les éoliennes et le photovoltaïque d'ici 2022 et il faut arriver à 50% de part d'énergie renouvelable en électricité d'ici 2025. François Fillon toujours et Nicolas Dupont-Aignan qui insistent sur les véhicules électriques et le développement des transports ferroviaires. Voilà, rénovation pour François Fillon de tout le parc réseau ferré, si je peux dire, et développement du fret et des voitures électriques. Moi, ce qui m'a frappé, François de Monnet, vous allez m'aider, c'est que hormis Benoît Hamon, qui est quand même assez offensif sur ces sujets, peut-être un petit peu Nicolas Dupont-Aignan, on n'a pas l'impression que, enfin, il n'y a pas énormément de choses en fait dans ces programmes. Alors c'est peut-être une fois de plus parce que tout est contenu dans la COP21, mais j'ai pas trouvé que c'était très étoffé. Est-ce que ça a été votre sentiment?
Il n'y a pas effectivement énormément de mesures à proprement parler, mais par exemple, on pourrait quand même réagir parce que François Fillon, on me disait à l'instant que François Fillon est pour le développement d'une filière d'énergie propre, etc. Et dans le même temps, il est pourtant aussi pro-nucléaire. Donc, comme Marine Le Pen, comme Nicolas Dupont-Aignan ou Jacques Cheminade, seuls Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon sont vraiment opposés et le martèlent fermement.
Et Jean Lassalle de Résistons qui dit qu'il faut qu'il y ait un débat sur le sujet.
Il faut qu'il y ait un débat. Et Emmanuel Macron, lui, attendra l'avis de l'autorité de sûreté nucléaire pour se prononcer sur la prolongation des centrales après 40 ans de vie. Donc voilà.
Vous y voyez une contradiction apparente. En tout cas, on va poser la question à Dominique Gilbon, qui est un peu le monsieur écologie de ce plateau. Ça n'empêche pas aux uns et aux autres peut-être de réagir. Sur le nucléaire, c'est difficile de parler du nucléaire, en plus il nous reste 3 minutes, hein, mais votre sentiment, il y a quand même deux clans, il y a un peu le clan des pro-nucléaires, disant que c'est complètement inconscient que la France sorte du nucléaire, et il y a le clan de ceux qui sont anti et qui imaginent une France sortie du nucléaire. Donc on a dit Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Alors vous, quel est votre sentiment?
Il n'y a pas beaucoup de membres de la société
civile qui défendent le nucléaire, donc c'est aussi pour ça qu'on...
Ben, c'est-à-dire que les gens défendent leur confort, les gens défendent leur... l'image qu'on leur a donnée de l'actuelle situation qui, elle, est encore confortable. On est en crise parce que les gens ne prennent pas la conscience véritable des conséquences à terme du nucléaire et de l'image qu'elle représente, comme on est une société nucléarisée aussi parce que dans les moyens de production, elle est centralisée sur des systèmes qui nous échappent complètement. Qui peut maîtriser aujourd'hui véritablement la machine nucléaire? Personne, sur le plan mondial. C'est une machine infernale, exactement comme était infernale, je dirais, l'usine chimique sud de Toulouse avant qu'elle explose. Et ben elle a explosé, maintenant, je dirais, on est dans une situation. Mais le nucléaire sera beaucoup plus grave. Et je pense que nous, si on est lanceurs d'alerte par rapport à ces choses-là, je dirais qu'il faut avoir le courage aujourd'hui de dire surtout, eh bien, on a mangé le pain blanc, il va falloir partager avec l'ensemble de l'humanité, de manière horizontale, mais verticale aussi, c'est-à-dire que dans l'histoire de l'humanité qui va se développer, il faut prendre nos responsabilités en disant, on est au-dessus de ce qu'on devrait consommer aujourd'hui. On bouffe plusieurs planètes en une année. Je dirais qu'il y a quelque chose d'insupportable.
Alors, donnez-nous peut-être des précisions. C'est-à-dire, en quoi d'utiliser le nucléaire, c'est manger plusieurs générations?
Tant qu'on n'a pas fait, c'est écrit dans un texte, l'expérimentation du démantèlement d'une centrale et des conséquences, je dirais qu'il faut arrêter.
Des conséquences quoi? Environnementales, vous voulez dire?
L'ensemble du dispositif d'une centrale, il va falloir le stocker quelque part pour qu'il n'ait pas d'atteinte. Tout ça, c'est des choses qui sont complètement radioactive. On n'a que Bure, et Bure résiste d'une certaine manière à être vraiment la poubelle unicléaire de l'Europe, voire du monde. Et je dirais qu'on est avec une machine dont on ne connaît pas les aboutissements. L'écologie, c'est quand même la logique à terme d'un système qui assure notre confort, entre parenthèses, mais qui doit préserver le confort des autres aussi, ou la survie des autres aussi. Dans le nucléaire, on n'a absolument aucune visibilité. Et les dernières histoires qui ont pu se passer autour de l'EPR montre aussi qu'on continue à aller dans le sens d'une machine qu'on ne maîtrise pas dans sa construction. Donc ça va nous coûter de gérer des sommes extraordinaires, et je dirais que c'est un peu notre confort économique qu'on va payer sur le plan mondial.
Voilà, et ben merci beaucoup à nos invités d'être venus se lancer dans cet exercice. Si je devais résumer, j'espère que je vais trahir la pensée de personne, mais vous avez beaucoup insisté donc sur la nécessité de la relocalisation des marchés, d'une prise de conscience de la part du consommateur, en fait, de ceux qui travaillent à proximité, et donc de faire en sorte de les faire vivre, d'une réappropriation par les agriculteurs aussi peut-être de leur travail, sans pour autant tomber dans des caricatures protectionniste. Et côté environnement, tout le monde est d'accord, mais dans les programmes, sont-ils tous d'accord avec l'accord de Paris, tous ne sont pas très offensifs. Voilà, j'espère que ce résumé est à peu près fidèle à la réalité. Merci beaucoup à tous nos invités. Merci à Serge Bladinière qui était depuis Cahors, à qui on a quand même essayé de donner la parole. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Francky Guéret. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.